Oui. Bon, vous m'entendez? Bon. Alors, vous voulez lancer un peu une discussion sur les luttes et puis l'organisation des travailleurs dans le secteur du nettoyage. Bon, c'est un secteur qui est relativement nouveau, en fait, dans la classe ouvrière, puisqu'il commence à se développer dans les années 80. Aujourd'hui, c'est devenu un secteur qui est loin d'être un secteur marginal. Voilà. Donc, en 2012, c'est un secteur qui regroupe 4 069 026 salariés, dont 33% sont en Ile-de-France. Non. 469 000. Voilà. C'est les chiffres de 2012. Une région, selon 2012, hein, pour 2012, il y avait 116 000 salariés relevant des entreprises de nettoyage, ce qui représente quand même 2,6% de la force de travail salariée en région parisienne. Donc c'est pas un secteur complètement négligeable. Le développement de ce secteur, il a été lié à l'offensive du patronat pour casser les collectifs ouvriers. Avant, pendant les entreprises privées que publiques, il y avait intégré au personnel des agents d'entretien disposant de la même convention collective et soumis au même patron que les autres travailleurs de l'entreprise. Avec le développement de la sous-traitance, c'est de plus en plus tendant le public dans le privé à des entreprises de nettoyage qui sous-traitaient la propreté des usines, des bureaux, des magasins, etc. Alors au niveau national, il y a en tout 11 800 entreprises de nettoyage, mais avec au moins un salarié. Il y a beaucoup aussi d'auto-entrepreneurs, mais même s'il y a beaucoup de petites boîtes et même des très petites entreprises, la grande masse des salariés travaillent pour les grandes entreprises. Donc toujours dans les chiffres, 80% des entreprises ont moins de 11 salariés et elles représentent que 11% de l'emploi. Et 43% des salariés travaillent pour les entreprises de plus de 1000 salariés. 9% pour les entreprises de 500 à 999 salariés et 18% pour les entreprises de 100 à 499 salariés. Donc la grande majorité sont quand même dans des boîtes, et des grandes boîtes, voire même des très grandes boîtes de plus de plusieurs milliers de travailleurs. Donc toujours sur les chiffres, hein, ce qui intéresse, 66% des salariés sont des femmes, c'est un secteur très féminisé, alors qu'elles sont que 42% dans la population active salariée. Mais surtout dans les postes non qualifiés, il y a 75% à 80% de femmes. A l'inverse, hein, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes, chez les cadres, elles sont plus que 24%. Et il y a aussi, c'est aussi un secteur avec une très forte, avec une forte proportion de travailleurs peu qualifiés. Et également avec un grand nombre de travailleurs immigrés. Alors 84% des salariés sont en CDI, mais 74% des salariés de la branche sont à temps partiel. Alors je ne vais pas prendre tous les chiffres, mais en gros 53% ont quand même plusieurs employeurs, ce qui veut dire que la moyenne hebdomadaire elle est de 30 heures. Bon, c'est un secteur où à la fois l'exploitation capitaliste est particulièrement rude, où les patrons se sentent tout puissants. Du coup, à cette exploitation s'ajoute en plus l'oppression sexiste et raciste. Par exemple, c'est pas rare qu'il y ait des chefs qui montrent toute leur puissance et leur arrogance par rapport à des ouvriers immigrés pour les faire des pressions, pour leur faire signer des avenants au contrat de travail, par exemple, qui diminuent le temps de travail et donc le salaire. Surtout que ce soit dans les très petites entreprises ou même dans les grandes boîtes, le problème dans le nettoyage, c'est que les salariés sont isolés. Il y a peu d'organisations collectives, syndicales, mais même aussi entre copains ou copines, compte tenu de cet isolement. Contrairement à un atelier, à un bureau, on se connaît, on se voit, on a une espèce de force collective de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines. Dans le nettoyage, il y a beaucoup de travailleuses qui sont, sur des tout petits chantiers, une, deux, trois, parfois un peu plus, parfois toute seule, sur des horaires différents, c'est plus difficile maintenant sur le travailleur. Parfois, il y a des boîtes où on se rend compte que tout le temps, mais on ne sait même pas, les salariés ne savent pas qu'il y a un délégué qui est sur le problème des états de l'Union européenne, sur le monde du personnel, et pas en continu dans le point de vue des autres états. Il y a des élections, toi tu serais à
bord. Alors en fait, ça appelle la porte de mémorandum.
Les patrons en profitent dans ce secteur pour bafouer les droits des travailleurs. Ça se joue par exemple assez souvent sur les heures supplémentaires qui ne sont pas payées, des amplitudes horaires qui ne sont pas respectées, des primes qui sont oubliées. Chez Honnête par exemple, il y a une ouvrière qui devait faire le ménage sur un chantier en fonction, qui ne disposait pas des matériaux nécessaires pour le faire correctement. elle allait, elle rattrape pas
le risque de
Google à côté.
Et elle a fait la
perfectionner parce qu'elle ne pouvait pas faire son travail.
De la stratégie.
Et au prud'homme, elle a pris cher à vérifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, le point qui est important de souligner, c'est que sur l'ensemble des boîtes de nettoyage, il y a une concurrence permanente. Les chantiers sont donnés à une entreprise et régulièrement, tous les deux ou trois ans, l'entreprise qui se traite en boîte de nettoyage refait un appel d'offres et va prendre l'entreprise qui coûte le moins cher ou parfois la même boîte et qui va dire voilà, on a baissé les prix du marché pour le chantier. Et à chaque fois, bien sûr, ça se fait sur le dos des travailleuses et des travailleurs en leur demandant de faire le même chantier mais en moins de temps ou en étant moins nombreux. Même si ce n'est pas légal, il y a des grosses pressions à ces moments-là pour faire baisser les heures de travail des salariés et donc faire baisser leur salaire. Si c'est un secteur quand même qui est difficile pour l'intervention syndicale, et plus généralement pour l'organisation des travailleurs, on peut quand même ajouter qu'au niveau syndical, la Fédération nationale des ports et docks CGT, qui est officiellement la fédération qui organise les travailleurs du nettoyage, elle est pas vraiment une grande aide, au contraire, elle est parfois intervenue, y compris contre d'autres syndicats CGT, pour garder le monopole contre les revendications ou la possibilité de représenter les salariés du nettoyage. Comme on l'a vu, c'est quand même un secteur qui est partiel de la classe ouvrière, mais c'est un secteur aussi où se développent des luttes, malgré toutes les difficultés. En Belfort, il y a un syndicat des femmes de ménage qui s'est constitué le 8 mars. Ils ont choisi la date symbolique pour un secteur où c'est essentiellement les travailleuses. Aujourd'hui, à Paris, il y a les travailleurs de TFN qui étaient en grève à partir du 11 mars contre la baisse de temps de travail. Et donc leur rémunération sur le chantier des finances publiques. Et à la Bibliothèque nationale de France, les ouvrières de nettoyage d'honnête sont mises en grève 13 jours à partir du 23 avril et ont obtenu 3 embauches supplémentaires. Le paiement d'une partie des jours de grève et l'attribution d'heures complémentaires. À Besançon aussi, avec l'UNCGT, se met en place une section des ouvrières et des ouvriers du nettoyage. Alors, la difficulté de l'intervention dans le secteur, l'isolement des salariés, nécessite généralement un soutien extérieur qui peut être celui, on va dire syndicalement, type UL, l'union locale, celui aussi des militants et des syndicats dans les boîtes qui utilisent les boîtes de nettoyage. Dans les deux grèves récentes à Paris, par exemple, les ouvriers de TFN et de Net, à TFN, ils ont été aidés, organisés par la CGT des finances publiques, qui a aidé à organiser la lutte pendant la grève. Et sur le site Honnête à la Bibliothèque nationale de France, c'était soutenu par le syndicat Subculture, qui intervient dans cette boîte. Et si on voit par exemple ce qu'on essaye de faire d'organiser les travailleurs du nettoyage sur Besançon, on le fait aussi grâce à des copains qui travaillent sur le CHU, à la SNCF, le réseau Chico, c'est le transport en commun de la ville, dans des usines, il y a des salariés, parfois pas bien nombreux, mais tous ensemble on a une certaine force qui viennent quotidiennement nettoyer les ateliers ou les locaux. Alors comment on la constitue en fait sur Besançon, ça s'est fait un peu au départ en soutenant un copain dans une boîte qui était le seul, c'était une petite boîte de 13 salariés. Une première tentative de licence, délégué du personnel en fin janvier 2014, au moins une dizaine d'avertissements jusqu'en octobre 2014 où il y a une tentative de licenciement. Qui est refusé par l'inspection du travail. Enfin, il y a tout un boulot qui a été fait aussi de mobilisation, d'arbitrage de dossiers, de prouver la discrimination syndicale et tout ça. Donc ça a été refusé. Et après, c'est une copine syndiquée de la boîte CGT qui a été licenciée avec même une lettre de licenciement qui note clairement en fait, sur un horaire mal. Demi-heure de trop sur une feuille de pointage, mais une erreur basique, en disant votre appartenance à la CGT ne doit pas vous permettre de modifier les fiches horaires des salariés. C'est assez gros. Donc là, il y a eu toute une solidarité qui a été organisée au niveau interprofessionnel, rassemblement devant la boîte et tout ça. Et du coup, comme c'était médiatisé, il y a d'autres travailleurs du nettoyage qui se sont rapprochés, notamment là où il y avait déjà des sections comme chez De Richebourg. Depuis 3 mois, environ, on a un collectif de travailleuses et de travailleurs du nettoyage qui se réunit tous les mois. Avec des travailleurs et des travailleuses du secteur qui sont vraiment militants, qui vont coller dans les quartiers populaires, qui vont sont aussi au contact avec des tracts. On fait aussi du matos en plusieurs langues, en français, en arabe, en serbo-croate, parce que c'est un secteur avec une forte proportion de travailleurs immigrés. Et voilà, donc c'est pas des exemples à suivre, mais plutôt pour discuter de comment on peut intervenir vers ce genre de boîte, aider à l'organisation des travailleurs, et peut-être plus généralement dans les boîtes de sous-traitance. Voilà. Qui intervient même assez radicales, puisque dans leur dernier tract, ils mettent un truc, bon, notre, la force c'est nous, enfin nous les travailleurs, et en mettant, on peut imaginer, on pourrait jamais imaginer que les patrons, un monde où les patrons se passent des ouvriers, par contre on peut très bien imaginer que les ouvriers se passent un jour des patrons et des actionnaires.
Dans le même temps, dans ces 4 mois, c'est bien de cette grâce à aussi ressortir
des mesures. Aussi sur un truc de tuer généralement les boîtes de sous-traitance. Je crois que c'est aussi une stratégie patronale. Parce que, comme tu sais, bon, avant les années 80, dans le public ou dans le privé, c'était surtout le personnel de nettoyage des gens de la boîte. La poste, la mairie, et tout ça. Ou des boîtes privées. C'est aussi un moyen pour le patronat pour diviser la classe ouvrière, de faire que dans une même boîte, en fait, il y a plusieurs entreprises, plusieurs conventions collectives, bon, une même exploitation, mais du coup, c'est un peu plus compliqué de s'organiser et de résister, parce qu'on a tous exactement le même patron, exactement la même convention collective, voilà.
Par exemple, on voit régulièrement au niveau syndical, c'est que la dignité qui est demandée aux syndicalistes de connaissance juridique, de connaissance des conventions collectives, elle est de plus en plus importante. La moindre réunion qu'on a avec le taulier, avec les dossiers, on a dit, alors on a un peu l'habitude, ça va. Et donc, on voit des collègues. Sont complètement dépassés par la masse de dossiers qu'on leur demande de lire, on leur répond les dossiers la veille au lendemain, enfin, ils sont consommés là-dedans, et on passe d'un truc où il faut être un agitateur de classe, hein, il faut être un peu plus pour nous. Alors pourtant on vient rajouter en plus de 10 millions de fait d'avoir plusieurs patrons, plusieurs systèmes juridiques, plusieurs systèmes de contrat, ça devient compliqué. Il y a un autre truc, quand vous parlez des expériences, j'ai entendu parler il y a pas longtemps, vraiment le problème est souvent au nord, des collègues au CHS et au nord, d'autres collectivités, qui bataillaient contre les produits toxiques qu'on entretient, parce qu'ils sont des produits toxiques pour les rendre inconscients, et en fait, ils sont interdits dans la discussion avec le personnel d'entretien que. Les produits toxiques à Java 21, il fallait frotter 10 fois plus. Donc, du coup, ça nettoyait moins bien. Ça paraît comme ça, mais il y a des vrais problèmes là aussi. Il faut aussi rediscuter entre les différents intervenants pour avoir des revendications qui tiennent la route, qui tiennent compte de tout ça, et qui ne sont pas en train, sous prétexte d'améliorer les conditions de travail, en train en fait de les compliquer. Je ne sais pas si tu as des échos comme ça, moi j'ai entendu des trucs comme ça.
Pas cet écho-là exactement, mais une question qui a très vite été posée par plusieurs travailleurs du secteur, c'est en gros, c'est est-ce qu'il existe une réglementation ou quelque chose sur tant de travailleurs, tant d'heures de travail pour tant de tâches à effectuer. Par exemple, pour nettoyer 100 mètres carrés dans une usine, il faut être là pendant 4 heures tous les jours. Par exemple, vraiment au hasard, ou pour laver tant de mètres carrés de vitre, il faut compter tant d'heures. Ça n'existe pas. C'est là-dessus que se met la concurrence après les boîtes entre elles. Alors, parfois, avec des salariés, des entreprises utilisatrices qui gueulent contre les salariés de l'entreprise de nettoyage pour dire bah, tiens, le boulot est moins bien fait, avant c'était 2 heures, maintenant c'était 1 heure. Donc, si c'est normal que la fille ou le gars qui fait le ménage ne va pas passer 2 heures pour être payé 1 heure, c'est clair. Il y en a qui le font. Parfois, ça arrive parce qu'ils veulent partir quand le truc est vraiment propre, et ça fait 1 heure qu'ils vivent au patron. Donc, non, du coup, non, si t'es payé 1 heure, tu bosses 1 heure. D'avoir, et c'est un truc qui commence à être en discussion, d'avoir un peu, je veux dire, un peu des normes pour aussi que les militants en ligne des boîtes utilisatrices peuvent dire non mais attendez, à ce prix-là, ça veut dire que c'est pas possible de nettoyer. Parce que on renforce la charge de travail, on renforce la pression. Du coup, on essaie d'intervenir avec les autres syndicats, pour l'instant ils sont pas trop chauds. Bon, il y a la maison des syndicats qui appartient à la mairie. Avant c'était 2 heures de nettoyage par jour, c'est passé à 1 heure avec la même ouvrière. Du coup c'est syndiqué chez nous. Parce que vous voyez, avec les gens qui nous voyagent, on essaie de voir avec les autres syndicats pour au moins dire, voilà, non mais c'est 2 heures, on dit, bah, dis pas moi, on a dit, moi je vais pas, moi je fais 1 heure, je pose 1 heure, on le fait avec les autres. Effectivement, c'est pas bien fait, c'est normal. Et ça, c'est cette question-là, c'est vrai qu'elle commence à être discutée, c'est de trouver un peu des normes sur lesquelles peuvent aussi s'appuyer les copains des boîtes utilisatrices pour dire non, tant d'heures pour déployer ça, c'est pas possible. Avec après des différences, hein, c'est un bureau, c'est pas le même travail que l'usine, voilà.
C'est un truc sur lequel il y a en théorie un biais qui va intervenir assez exactement, c'est que faut que les syndicats aient une intervention sur le moment de la rédaction des marchés. C'est vraiment le truc qui tombe les collectivités peuvent mettre en déclos écologique qui ne respecte pas, mais ils mettent des choses, voilà, on va respecter l'environnement, on va faire du développement durable. En fait, on peut très bien dans un marché mettre des clauses sociales ou simplement des clauses de qualité en disant on a estimé qu'il y avait besoin de faire ça. Là, il y a un moyen d'intervenir, mais par contre, c'est super technique, c'est super chiant, puis ça se fait pas pour rien, ça se fait pas pour la boîte, elle est déjà dans les recours. Ça se fait un an, 2 ans avant, quand le marché, quand le cahier d'appel d'offres est rédigé. Et si tu ne sais pas comment on rédige ces machins-là, si tu ne sais pas comment intervenir sur ce truc-là, c'est un dit, là, il y a vraiment un truc au niveau de la formation dans les syndicats, mais on vient sur le même problème, c'est-à-dire que les patrons nous imposent une technicité qui a une dimension plus forte, et c'est un truc, ça ne va même pas dans le sens de la situation, mais ça va dans le sens qui est rebutant pour le partage d'accident. Si ça se bat, le
moins de je voulais poser une question parce que les entreprises de nettoyage sont donc les sous-traitants de plus grandes entreprises ou de collectivités, etc. Et tu diras si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'assez souvent, ils remettent justement le marché en jeu, et puis ça peut changer d'entreprise. Alors bon, je crois qu'ils sont plus ou moins obligés de reprendre les salariés, bon enfin bon, tu diras peut-être, moi je ne connais pas très bien ce truc-là, mais... comment vous abordez la question du coup, les salariés du nettoyage, j'ai l'impression qu'ils ont un peu deux patrons. Leur patron sur le contrat de travail, et puis le décideur de la grande boîte qui, en fait, décide d'attribuer le marché et puis tire vers le bas. S'il tire les prix vers le bas, bah, c'est les conditions de travail. Oh là. Donc, comment vous abordez cette question est-ce que le... Je veux dire, la cible, c'est le patron de l'entreprise de nettoyage. Est-ce que c'est la grosse boîte? Est-ce que comment vous... Voilà.
Alors, ouais, ben, t'as tout à fait raison sur ce que tu disais, sur les marchés et tout ça. Normalement, il y a une obligation, effectivement, de prendre les travailleurs et travailleuses. C'est pour ça que c'est aussi important de regrouper les travailleurs et travailleuses de nettoyage de plusieurs boîtes, parce que sur tel chantier où c'est des travailleuses, on va dire, d'honnêtes, 3 ans après, les mêmes filles peuvent être salariées d'honnêtes et d'autres boîtes. Voilà, ça peut changer. À chaque fois, voilà, comme tu disais, les trucs à la baisse. Alors, pour l'instant, je te dis pour l'instant, on a plutôt attaqué les patrons du nettoyage sur des trucs très concrets, d'heures pas payées, de choses comme ça. Mais ce qu'on essaye aussi de voir, voilà, c'est vrai que c'est aussi avec les copains des boîtes qui utilisent parfois des trucs assez symboliques. Hein, pour l'instant, on n'a pas fait de trucs extraordinaires. Mais quand la copine a été licenciée chez Cristal Événement, une petite boîte de nettoyage, en fait, un truc qui l'a beaucoup touché, c'est que, les copains du syndicat CGT de Camelin, qui est une boîte de métallurgie, ont affiché le communiqué de soutien pour dénoncer le licenciement et sont venus au rassemblement devant la boîte. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas obligé le patron à réintégrer le courrier. Mais pour elle, de voir que les gens qu'elle côtoyait dans la boîte utilisatrice, voire moins le milieu syndical, disent bah, « c'est une copine, on est solidaire », pour son moral, c'était très important.
Oui, moi, je voulais intervenir à propos de la question sur les changements de contrat, parce que parfois, je gêne en fait des copains qui quittent à au problème. Ils ont été confrontés au problème il y a un an. Au moment où on a eu un changement de contrat de l'entreprise de nettoyage qui était honnête, je crois, la journée où il est passé on repris l'intégralité des salariés. Par contre, le problème qui s'est posé, c'est aussi au niveau des mandats syndicaux. C'est-à-dire que nouvelles élections professionnelles, on se retrouve avec du coup, des réseaux qui sont différents. Les délégués avaient un réseau qui était dans l'aide et qui n'était pas dans le DFL. Et avec des élections professionnelles, ils ont perdu leur mandat. Donc, à ce moment-là, la boîte en a profité en fait pour. Alors qu'on a des méthodes qui sont utilisées dans ces boîtes-là, hein. c'est vraiment des boîtes de mafieux et qui sont aidées par des syndicats qui le sont tout autant. En l'occurrence, les délégués avaient fait remonter un mécontentement sur l'organisation des services, de l'organisation du travail. Et à ce moment-là, le patron leur avait proposé à chacun, à ces deux délégués du personnel, un chèque de 700 euros. Vous pouvez embaucher, machin, en disant bon bah, ok, on va prendre en compte ce que vous dites, mais surtout prenez ce chèque-là et qu'on verra plus tard. Alors eux avaient fait le chèque qu'ils n'avaient pas encaissé, en disant ce sera aussi une preuve, si plus tard il y a des problèmes, etc., on pourra mettre ça sur le tapis. Bon, du coup, la boîte avait vu qu'effectivement ils ne mordaient pas de la corruption comme ça. Mais, en plus, c'est bon, 700 euros, c'est à la fois beau pour quelqu'un, mais en même temps, les salaires de misère. C'est sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, comme ils ne mordaient pas dans le truc de corruption, ils ont été quelques mois plus tard. À ce moment-là, ils ont été soutenus par les autres salariés de la boîte, pas tous, parce que le patron s'organise bien pour essayer de monter les uns contre les autres, mais en tout cas, il y a eu une solidarité assez forte. Sur 30 salariés, ils ont été une vingtaine en grève pendant 2 semaines et demie, ce qui était quand même pas mal. Bon, ils ont été soutenus par la CGT du site, la CGT de Renault. Donc c'est un syndicat de site, donc du coup, ça leur permet aussi d'intervenir. La grève a été défaite, malheureusement, y compris avec l'aide, donc normalement du coup ils étaient représentés par Force Ouvrière au niveau de TFL. Et en fait Force Ouvrière est même venue sur le site pour renier la grève, distribuant un tract auprès des autres salariés. Alors quand ils ont vu que les autres militants de la CGT arrivaient avec les salariés du nettoyage pour distribuer un autre tract, en fait ils ont rangé ce qu'ils avaient, ils sont partis, ils n'ont même pas osé discuter tellement ils avaient. Un peu de par rapport à ce qu'il faisait, mais bon, il faut savoir que maintenant le syndicat travaillait directement avec le patronat du début à la fin. Donc voilà, c'est vrai que c'est des situations de combat qui sont difficiles parce que même là il y a eu une solidarité quand même assez importante, c'est-à-dire que non seulement le milieu syndical était de la CGT lundi était solidaire de cette grève, mais il y a eu une pétition qui a été signée auprès du personnel. Du site qui a été vraiment massivement signé. Il y a 2000 personnes sur le site et en un midi à la comptine, ils ont fait signer la pétition. Il y avait peut-être 800 personnes qui l'avaient signé, donc c'était une vraie solidarité. Comme c'est des gens qui bossent sur le site depuis un moment, tout le monde les connaît, tout le monde les voit tous les jours pour le nettoyage. Donc il y avait une incompréhension du fait qu'ils soient licenciés comme ça du jour au lendemain pour des motifs qui ne tenaient pas la route. Donc voilà, c'est des situations assez difficiles parce qu'en face, c'est des directions qui a peur de rien, c'est-à-dire y compris à recourir à des faux juridiques, etc., pour aller dans son sens. Là, en l'occurrence, sur ce truc-là, donc si la mobilisation a été défaite, ça continue au prud'homme. C'est déposé au prud'homme et on verra si sur le plan juridique on arrive à obtenir quelque chose. Mais bon voilà, c'est sûr que ça se fait dans des bagarres qui seront dans des situations qui ne sont pas du tout dans.
Merci beaucoup Philippe. Oui, non, mais je trouve que c'est un témoignage intéressant. Hein. C'est vrai que c'est souvent un patronat qui, pour lui, soit dès le début, ils essayent d'acheter des délégués, ou même de les nommer. J'ai même entendu une boîte où il y a quelqu'un qui était élu délégué, si je ne le savais pas. C'était un truc, ça avait été rempli par le patron, comme ça, le truc pour envoyer à l'inspection du travail. Personne n'était au courant qu'il y avait délégué, même pas le délégué. Mais bon, ils se sont dit comme ça, on est tranquille, on va avec lui, il est gentil, et voilà. Les trucs
de corruption, c'est vrai que ça s'entend aussi vis-à-vis de militants combatifs. Ça existe dans d'autres secteurs, mais là, comme les salaires sont très bas, les conditions de travail sont particulièrement hardes. Bah, parfois, c'est de la corruption qui ne coûte pas si cher que ça au patron. Là, tu donnais un exemple de 700 euros. Et puis, oui, voilà, vraiment, c'est que quand il y a un militant qui commence à être un peu combatif, qui n'est pas révolutionnaire, voilà, qui veut simplement appliquer la convention collective, c'est la guerre. C'est aussi pour ça que je trouve que le soutien extérieur il est vraiment nécessaire, aussi pour le moral des copines et des copains qui bossent là-dedans, parce que quand on s'en prend, quand on en haut on s'en prend, mais vraiment, voilà, sur des dossiers, enfin, il y a des trucs, c'est tout faire pour faire craquer, craquer le militant ou la militante, envoyer, faire rechanger les plannings tout le temps pour faire de bosser de 7h à 8h et puis de 19h à 20h, de foutre exprès au milieu le samedi matin, enfin des trucs samedi et samedi soir, enfin vraiment pour casser la vie perso, mettre sur des chantiers où il n'y a rien à faire, enfin vraiment isoler complètement sur la boîte, la piste à l'événement, avec des témoignages de travailleurs, vous savez que la direction les a chopés en disant si tu parles aux délégués, t'es licencié. Voilà. Et même, tu dis même pas bonjour, quoi. Voilà, c'est vrai qu'en face, c'est vraiment un patronat qui n'est pas aussi fait. Qui profite aussi, c'est parce que ça dépend quand on racontera plusieurs victoires, tout ça, ils se calmeront un peu. Hein, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est bien de faire comme ça, cette solidarité entre l'ouvrier de la boîte utilisatrice et l'autre. Je crois que c'est vraiment la clé pour ce secteur-là ou pour les autres boîtes de sous-traitance.
Licenciement de la copine qui
anecdote sur l'appartenance syndicale, des choses comme ça, on a médiatisé, à tel point que la patronne a fini par faire un communiqué par les salariés en disant pour nous, ce n'est pas une patronne, c'est une mère parce qu'elle nous aide et une assistante sociale. Ça aussi, c'est des trucs qui peuvent arriver dans ce secteur-là, on fait la pression et puis comme ça, des salariés. Voilà. Et ce qui a fait venir aussi d'autres salariés du nettoyage, ils se sont dit tiens, il y a des choses qui se passent dans le nettoyage, il y a un syndicat qui en parle. Ça s'est fait avec De Richebourg d'abord. On a commencé à faire des tracts pour distribuer surtout, qui sont distribués par les copains de boîte vers le personnel de nettoyage. Et les camarades de nettoyage aiment bien les coller dans les quartiers populaires, les quartiers HLM, et on les a en trois langues, je le disais au début. Ça fait que parfois il y a des discussions, on va tout d'un coup, ça se peut parler en arabe, voilà. Ah mais c'est bon, alors on va trouver un CDI. Là, mais c'est une réalité de la classe ouvrière, plutôt sympathique, quoi.
Le fait d'avoir devant les tracts en trois langues, ça a été vraiment important.
Pour l'instant, le cerveau croate, ça a plu. Déjà, ça plaît, parfois même. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... C'est un secteur, j'ai pas les chiffres, du nombre de travailleurs immigrés. Qui est très important, surtout en région parisienne, hein, je crois que c'est plus de 50%. Et c'est vrai qu'il y a par exemple des femmes qui a gagné au prud'homme qu'on a soutenu, justement parce que si elle n'a pas en contrat de travail, elle ne sait pas lire le français, pas très bien l'arabe, mais c'est au moins, et du coup on reconnaît, voilà, il y a une classe ouvrière. Dans cette classe ouvrière, il y a plusieurs langues qui sont parlées, et il y a des gens qui viennent aussi pour ça. Bah oui, qui comprennent le tract, qui voilà. On parle plusieurs langues. On parle plusieurs langues. De toute façon, on a tous un même intérêt. Des interventions.
De la boîte de l'époque qui devait être de Richebourg, qui dit pas de bêtises, contre nous. C'est-à-dire
syndicats peuvent témoigner contre nous. Donc tout ça pour dire que voilà, donc il faut s'organiser très précisément pour défendre les militants qui s'engagent dans une démarche un peu combative. Et moi je vois pas 36 000 solutions. Le seul truc que je vois que j'ai jamais testé, mais qui tente depuis un certain temps sur une collègue qui a vraiment du mal, c'est commencer des dossiers en discrimination. Parce qu'une fois qu'on commence comme ça, on commence à avoir quand même un peu de protection juridique. Alors c'est compliqué, c'est long, c'est assez technique. Il faut vraiment se faire aider. Moi je suis pas capable personnellement, mais bon, quand on cherche un peu du côté des militants les plus aguerris, si vous avez des conseillers prud'homaux, des choses comme ça. En fait, dans la discrimination, il y a... Je résume rapidement parce que c'est quand même pas complètement inintéressant. Je vous fais 2 minutes sur la discrimination. En fait, la discrimination, il y a 2 types de discrimination. La discrimination que vous demandez aux prud'hommes et la discrimination que vous demandez aux pénales. Donc aux prud'hommes, en fait, vous demandez des réparations, en fait, du point de vue carrière, salaire, etc. Il faut commencer par ça. Pourquoi ? Parce que dans le pénal, la charge de la preuve est à la victime. D'accord ? Donc vous devez montrer que l'employeur, par exemple, ne vous a pas augmenté parce que vous êtes syndicaliste. Ça, c'est pas facile. Ah, d'avoir des preuves de ça, c'est vachement dur. Et quand vous demandez ça, en fait, vous demandez au pénal, vous demandez à l'État de constater qu'il y a bien une infraction à la loi et donc de condamner à titre individuel l'employeur. C'est-à-dire, si c'est Monsieur Dubon, c'est Monsieur Dubon qui paye sa amende de temps. Si le prud'homme, c'est pas la même chose, vous allez contre la société, donc ce ne sera pas Monsieur Dubon qui paiera, ce sera la société. Et par ailleurs, le point crucial, c'est qu'au lieu que ce soit le salarié qui doit prouver que c'est bien une question de distribution, tout ce qu'il a à prouver, c'est que, en gros, par exemple, voyez, ma carrière est plate et celui de mon collègue à côté, il a eu un petit peu plus. Alors dans les deux, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de carrière. Donc on va dire, on va prendre un autre exemple que la carrière. Voilà, mon collègue, là, il nettoie 300 mètres carrés, moi j'en nettoie 500. J'ai demandé régulièrement à avoir moins de mètres carrés et on ne me l'a jamais donné. Et je lui estime que c'est dû à mon appartenance syndicale. Et là, en fait, une fois que ça c'est dit, c'est au patron de prouver qu'il fait ça pour une autre raison que l'appartenance syndicale du salarié. Donc c'est vachement dur. Maintenant c'est le patron qui doit prouver, non, j'ai une bonne raison de donner 500 mètres carrés au monsieur plutôt que 300, parce que il travaille mieux, etc. Enfin, il doit donner des preuves. Et ça c'est super dur. Donc en général ils sont condamnés au prud'homme. Une fois qu'il s'est condamné au prud'homme, il peut aller après au pénal. Et évidemment, dans les preuves que tu auras du pénal, tu mettras le jugement de prud'homme. Il y a une grande technicité du truc. On ne peut pas faire ça, même moi je dis ça comme ça, parce qu'on m'a raconté ça, mais je suis incapable de le faire. Il y a une grande technicité du truc, mais ça marche assez bien. Il faut en gros se faire aider par des copains qui connaissent. Voilà.
Ouais. Juste quand tu parlais de Doriscou, j'ai effectivement entendu parler du délégué syndical central par personnel CGT de Doriscou. Demande en gros qu'on puisse défendre les opinions. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Du syndicat nettoyage, enfin, la fédération des ports et docks en général avec les ouvriers du nettoyage, c'est que c'est vraiment. C'est pas la critique qu'on peut faire, tiens, le syndicat CGT n'est pas assez combatif dans ma boîte. Quoi. C'est vraiment pire. Quoi. Voilà. Avec une copine sur Besançon qui est plutôt. Dans la ligne de la CGT, la seule fois où elle a eu honte d'être à la CGT, c'est quand elle a vu le représentant, celui qui négocie la convention collective du nettoyage, et qu'un patron lui a dit « j'aime bien discuter avec vous, vous comprenez le problème des employeurs ». Il a dit « là, j'ai vraiment eu honte ».
Bon, j'ai d'autres anecdotes comme ça, mais je pense que la plus importante, c'est en fait, ce qui s'est passé lors des grèves des sans-papiers en partie dans le nettoyage, donc en région parisienne, moi je connais pas d'autres endroits. Rapidement, il y a eu 2-3 piquets de grève de nettoyage qui ont été levés. Et sans que les organisateurs de CGT, qui étaient en général soit de la Confédération, soit de l'Union départementale 75, beaucoup l'Union départementale et Sud en mars. Sauf qu'en fait, pourquoi? Alors ils arrivent, ils ont commencé leur petite enquête, ils disent bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gars de la CGT qui est arrivé, qui nous a dit qu'on allait lever le ticket, qu'on allait le remettre dans un autre endroit, qu'il n'y avait pas de problème, et qu'il y a de recourant, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était les délégués syndicaux, les délégués syndicaux, les secrétaires généraux et autres, du syndicat des nouvelles régimes de France, qui faisaient ça. Donc du coup, ils les ont coincés, ils les ont sévèrement engueulés, donc ça s'est arrêté. Mais il y a eu en gros une organisation à l'intérieur de l'Union départementale 75 pour que ça s'arrête et pour essayer de voir ce qui se passait dans le syndicat. Bon, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, ça fait 20 ans que ça dure. Et ça fait 20 ans que la CGT est au courant, ça fait 20 ans qu'il y a des militants qui se cassent les dents sur le problème, parce qu'en fait, autant il est très facile de créer un syndicat avec une étiquette CGT, autant une fois que le syndicat est créé, retirer l'étiquette CGT, c'est pas facile. Et après, avec aussi le fait, indépendamment des, on va dire, des histoires d'étiquettes, que rapidement dans le nettoyage, il y a une tradition côté patron pour acheter des délégués. Moi, par exemple, un truc tout bête, il y a pas mal de boîtes, c'était gomme. Il y a pas mal de boîtes qui, dès qu'il y a un délégué qui est élu, il dit, bah voilà, tu prends tes heures de délégation en dehors de ton travail, et comme ça, tu les as en heures sup, et je te le paye. Du coup, il y a une sorte de prime pour fait de ne pas prendre vraiment ces heures de délégation, parce que les heures de délégation, quand tu n'es plus avec tes collègues, c'est pas très intéressant. Mais il y a une sorte de prime quand tu ne prends pas tes heures de délégation.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres camarades qui veulent intervenir? Parce qu'après, il va y avoir le débat suivant, je crois qu'il y a 8 minutes. Et ouais, il nous reste 10 minutes, donc s'il y a des copains qui veulent intervenir. Après, j'ai trouvé intéressant des témoignages aussi dans notre boîte. Voilà, je commence la discussion dans la journée pour les camarades qu'on croise. Merci d'être venu.
À bientôt. C'est vraiment pour ça que je suis en train de faire un peu de temps.